7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Israelis running for shelter in Tel Aviv and Jerusalem.
Los que sí están llegando ya en masa al Río de Janeiro, al Maracaná.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Et bonsoir Nicolas.
Et pour commencer, on parle ce soir des élections législatives au Portugal, dimanche prochain, mais sous l'angle des expatriés.
Et oui, les expatriés, ou si vous préférez, la diaspora portugaise, et qui représente près de la moitié de la population totale du Portugal. Autant dire que son poids électoral est bien réel, et du coup évidemment très convoité. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Alors vous vous êtes rendu à la Queue-en-Brie, c'est dans le Val-de-Marne, près de Paris, très forte communauté portugaise. Et là, vous avez assisté à une réunion de l'association Civica, association des élus portugais, en plein meeting électoral.
Oui, à la tribune, devant une centaine de personnes, le secrétaire d'État des communautés portugaises de l'étranger achève son discours.
Portugal pode mais, Portugal à frente.
Portugal Podemos veut dire le Portugal peut davantage ou bien encore plus et non pas Podemos, le nom du parti espagnol né du mouvement des indignés. Au contraire, le gouvernement social-démocrate portugais de centre-droit propose lui de poursuivre la politique d'austérité. Les expatriés élisent seulement 4 députés en tout. Pourtant, leur vote peut s'avérer décisif, selon Paulo Marquez, président de l'association Civica qui regroupe effectivement des élus d'origine portugaise en France.
La réalité fait que lorsqu'il n'y a pas de majorité au Portugal, là, les communautés portugaises, les Portugais résidant à l'extérieur ont un poids extrêmement important parce que souvent, c'est eux qui font élire une majorité à l'Assemblée nationale. Monsieur Barroso, à l'époque, lorsqu'il est devenu Premier ministre, il a réussi effectivement à avoir la majorité grâce aux députés de l'étranger.
Voilà, un acte civique, où que l'on soit, sachant, Sophie, que le Portugal, c'est 10 millions d'habitants sur son sol et plus de 5 millions d'expatriés.
Oui, près d'un million en France, mais leur abstention est très forte, déplore José Cesario, secrétaire d'État des communautés portugaises de l'étranger.
Ça, c'est un grand problème. Dans la dernière élection, il y avait un peu plus que 200 000 inscrits pour voter au Portugal. Et nous avons eu une participation de 35 000 seulement.
Oui, donc c'est vraiment très peu. Et pourtant, ce sont des gens qui ont déjà fait la démarche de s'inscrire.
Oui, oui, oui. Dans cette élection, nous aurons 260 000 personnes inscrites pour voter.
Mais c'est aussi une très forte influence économique, souligne Carlos Goncalves, député social-démocrate de la circonscription Europe.
Dans certaines régions, les Portugais de l'étranger ont quand même un poids économique, dans des régions surtout de l'intérieur. C'est vrai, si vous êtes maire et vous, d'une commune où il y a beaucoup de Portugais à l'étranger qui soutiennent le développement de votre commune dans le plan économique, vous en bénéficiez. Donc c'est une façon indirecte d'aider sur le plan politique quelqu'un.
Voilà, soutien d'autant plus précieux que 50 000 entrepreneurs d'origine portugaise sont aujourd'hui installés en France, Sophie.
Oui, et selon Carlos Vinas Pereira, président de la Chambre de commerce franco-portugaise, beaucoup d'entre eux investissent là-bas, dans l'immobilier ou bien dans des industries sur place.
Et donc pour eux, c'est primordial de pouvoir voter pour le candidat dont ils estiment que le programme sera en faveur de cet investissement et de cette projection qu'ils font au jour le jour au Portugal.
Et une position plus difficile à vivre au Portugal pour ceux qui subissent au quotidien ces mesures d'austérité.
Mais il se trouve que tous ces Portugais qui sont là-bas, ils ont tous de la famille à l'extérieur et donc sont tous concernés par ce double regard. Alors bien évidemment, le regard de celui qui a souffert et le regard de celui qui a vu les gens souffrir est complètement différent. Mais il faut savoir que le Portugal, lorsqu'ils ont fait appel à la Troïka, n'avait l'argent pour payer que 15 jours de salaire des fonctionnaires. Donc ça voulait dire vraiment, ils étaient au bord de la faillite.
Aux dernières élections législatives en 2011, sur les 4 députés élus des Portugais de l'étranger, 3 d'entre eux appartenaient au PSD, le Parti Social-Démocrate.
Sophie Delpont, merci beaucoup. J'ajoute que selon les derniers sondages, la coalition de centre-droit actuellement au pouvoir creuse son écart sur l'opposition socialiste créditée de 43% des intentions de vote contre 33% au PS portugais.
Et à 18h40, 3 infos en bref, Michael. La première à l'ONU.
Oui, on en parlait il y a quelques instants avec vos deux invités, Nicolas. Le président palestinien Mahmoud Hamas a menacé il y a quelques instants devant l'ONU de ne plus respecter les accords avec Israël. Si l'État hébreu ne les respecte pas, nous ne pouvons pas continuer à être liés par ces accords. Et Israël doit assumer toutes ses responsabilités de puissance occupante, a donc déclaré il y a quelques instants Mahmoud Abbas devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et on y reviendra évidemment en détail dans le journal de 19h avec Sébastien Paour.
Et le Yémen maintenant.
Oui, le Yémen et plus précisément la localité de Mokka sur les bords de la mer Rouge au sud-ouest de Sanaa, la capitale. C'est là que le bombardement d'une fête de mariage avant-hier a fait 131 morts, dont plusieurs dizaines de femmes et d'enfants. Une bavure imputée à la coalition arabe anti-Houthis, sous commandement de l'Arabie Saoudite. Riyad des membres et plusieurs membres de Médecins Sans Frontières présents sur place confirment le raid aérien. Est en tout cas le pire massacre de civils depuis le début de la guerre au Yémen en mars dernier. Beaucoup plus réjouissant, en revanche, Nicolas, cette confirmation de la Nouvelle-Zélande hier soir. Le Premier ministre John Key a confirmé la création l'an prochain de l'un des plus grands sanctuaires océaniques protégés au monde, le sanctuaire des îles Kermadec dans les eaux du Pacifique au nord de la Nouvelle-Zélande, une zone plus vaste que la France, 620 000 km² au total, où pêche et forage seront interdits. Et pour le plus grand bonheur, on l'imagine, des baleines, dauphins et autres tortues.
Allez, rien à voir à présent, direction Varsovie où le ton monte face aux voisins russes.
On peut même dire que ça chauffe diplomatiquement entre la Pologne et la Russie, relations on le sait déjà très tendues, mais qui se sont encore davantage crispées autour de la relecture russe de la Seconde Guerre mondiale. Bonsoir Maya Szymanowska, en direct de Varsovie.
Bonsoir Mickaël.
Alors c'est l'ambassadeur de Russie en Pologne, hein, Sergueï Andreïev, qui a mis le feu aux poudres.
En effet, ce lundi avant midi, l'ambassadeur de Russie, Sergueï Andreïev, a même été convoqué par le ministère polonais de l'Extérieur pour une demande d'explication. En cause, l'entretien donné par l'ambassadeur à la chaîne privée d'information en continu TVN24 vendredi dernier. Dans cette interview, le représentant de Moscou à Varsovie a lancé quelques petites phrases qui ont tout de suite enflammé le web polonais et l'opinion publique. En revenant sur le passé, ce passé qui fâche, Sergueï Andreïev a mis en cause la politique de la Pologne dans les années 1930, qui aurait bloqué la création d'une coalition contre l'Allemagne nazie et serait ainsi co-responsable de la Seconde Guerre mondiale, selon l'ambassadeur de Russie. Quelques minutes après, l'ambassadeur ajoutait que l'invasion de la Pologne par les troupes soviétiques le 17 septembre 1939 n'était en rien une agression, mais une opération pour garantir la sécurité de l'URSS. Une phrase coup de poing quand on sait que suite à cette invasion, 200 000 soldats polonais ont été faits prisonniers par l'armée rouge, 22 000 officiers exécutés à Katyn et à Kharkov et plusieurs centaines de milliers de civils déportés vers l'est de l'Union soviétique en tant qu'ennemis de la nation.
Et réaction polonaise absolument immédiate, Maya.
En effet, on peut les résumer d'un mot, indignation. Certains commentateurs, sans même aller jusqu'à se demander si l'ambassadeur ne devait pas être renvoyé dans son pays. Dans son communiqué, le ministère de l'Extérieur polonais a dénoncé des propos qui, je cite, « renouent avec les interprétations les plus mensongères de l'époque stalinienne et communiste ». Fin de citation.
Et il faut dire, Maya, que ces relations n'ont jamais été très simples.
Alors non, effectivement, Michael, les relations entre Varsovie et Moscou sont compliquées par un passé commun houleux. La Pologne ayant été un pays satellite de l'URSS, sur son sol stationnaient plus de 200 000 soldats soviétiques avant 1989. Et ces relations ont connu un dégel au temps de la Perestroïka, mais se sont de nouveau dégradées depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, et encore plus depuis le début de la crise ukrainienne, qui a attisé la peur des Polonais de voir ressurgir le spectre de l'URSS.
Maya Szymanowska en direct de Varsovie, merci beaucoup.
Et on termine, Michael, par l'Afrique, à l'honneur au 32e Festival des Francophonies en Limousin.
Et un festival qui a pour habitude de nous faire découvrir de nouveaux talents, et c'est vrai, souvent d'origine africaine, à travers le théâtre, la danse ou la musique. Et il y est souvent question de politique, Stéphane Capron, et même peut-être plus encore cette année.
Et oui, car en Afrique, les artistes ne peuvent dissocier l'art de la réalité du terrain. Les Francophonies accueillent cette année les Récréatrales. C'est un festival qui se déroule à Ouagadougou et dans la période d'instabilité que connaît actuellement le Burkina Faso, les menaces pèsent sur les artistes. Aristide Tarnaga est le directeur artistique des Récréatrales.
Le premier ciblé de cette insurrection par les militaires putschistes, c'était les artistes, voilà, Smoke, Sams Khaledja, tous ces gens qui conscientisent, qui mobilisent, qui sèment les graines de la révolte à travers leur art chez le peuple, chez la jeunesse. Il y a quand même un engagement d'artistes assez fort. La preuve que nous sommes dangereux, entre guillemets, pour ceux qui viennent nous maintenir dans l'ignorance, dans l'esclavage.
On peut voir à Limoges, demain soir, Façon d'aimer, c'est le dernier spectacle d'Aristide Tarnaga.
Et vous avez également découvert, Stéphane, une jeune chorégraphe tunisienne très engagée.
Elle s'appelle Oumaima Manaï. Elle a reçu le premier prix de la chorégraphie au Festival de Tunis. Dans son solo époustouflant qui s'appelle Nit sans limite, elle danse avec du fil métallique barbelé, un geste hautement symbolique.
Je m'intéresse à parler avec mon corps et exprimer des choses sur scène et je trouve que c'est important, surtout dans notre société à nous, de s'exprimer avec le corps parce que c'est le premier langage en fait.
Comment a été ressenti votre spectacle quand vous l'avez présenté à Tunis ?
Le spectacle était avec le grillage, le fil de fer, on le voit dans nos rues, on le voit devant le ministère de l'Intérieur, on le voit dans les manifestations, on le voit devant les aéroports et tout. Et je sens que ça parle beaucoup aux Tunisiens et ça parle beaucoup à ces gens qui sont contre un système ou quelque chose comme ça.
Lundi soir, après la première, Oumaima était fortement entourée et déjà courtisée par les programmateurs. On ne devrait pas tarder à la revoir très prochainement en France.
Stéphane Capron, et si vous êtes dans la région de Limoges, ce 32e festival des francophonies en Limousin, c'est donc Ria Cranon jusqu'à dimanche soir. À demain, Nicolas.